Bonjour à tous. Alors, si vous voulez, on va commencer à demander à Dieu de nous éclairer, de nous guider, faire en sorte que sa parole porte fruit dans nos cœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à ta sainte présence. Seigneur, nous t'aimons. Nous voulons t'aimer cependant davantage et nous savons que ta parole joue un rôle très important pour développer notre capacité d'adoration et le fait que nous le fassions chaque jour avec le plus d'intensité possible. Seigneur, ou que ton esprit, l'onction de ton esprit soit à la fois sur moi et sur chacun des auditeurs, de manière, Seigneur, à ce que ta parole pénètre dans nos cœurs et qu'elle y demeure, et surtout qu'elle nous incite, Seigneur, à l'action, à l'obéissance, de manière à ce que ces choses transforment nos vies et nous fassent ressembler davantage à Jésus-Christ pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, voilà deux semaines, on avait commencé une série sur la parole de Dieu. La première leçon, on avait vu la nature de la parole de Dieu, ses différents attributs, ses différentes qualités, et aussi les différentes choses qu'un chrétien peut faire avec la parole de Dieu. Donc, on avait vu qu'il y avait cinq choses, normalement, qu'on peut faire avec la parole de Dieu. Premièrement, il y a la lire. On a un livre, le Seigneur nous a laissé les Saintes Écritures de manière à ce que on doit les utiliser chaque jour. Il y a plusieurs raisons pour ça. Aussi, l'écouter. C'est ce que vous faites ce matin. Vous êtes assis, vous écoutez la parole de Dieu. Et il y a autre chose qu'on doit faire aussi avec. La mémoriser. Ce qu'on ne fait pas beaucoup de nos jours, malheureusement, c'est des choses qu'on se doit d'apprendre comment le faire. Après ça, il y a la méditer. Ça aussi, c'est une chose qu'on ne fait plus beaucoup de nos jours. Et il y a l'étudier. Alors, c'est les cinq différentes affaires qu'on peut faire avec la parole de Dieu. Ce matin, on va commencer avec une des cinq affaires. Et dans les prochaines leçons, on va voir les cinq différentes choses qu'on peut faire avec et comment on doit le faire. C'est bien beau dire lire la parole de Dieu, mais comment on doit le faire? Bien beau dire comment étudier la parole de Dieu, mais comment on doit le faire? Avoir des outils pratiques. Souvent, ces choses-là, on les sait. Qu'il faut étudier, qu'il faut lire, qu'il faut méditer, qu'il faut écouter, etc. Mais on n'a pas les bons outils et on passe des fois à côté de ce que la parole peut nous apporter si on ne le fait pas correctement. Alors aujourd'hui, c'est qu'on va commencer par comment écouter. Vous êtes là, vous écoutez la parole de Dieu. Alors il y a une manière de le faire. Et les Écritures nous donnent plusieurs outils, plusieurs moyens de le faire correctement. Alors, c'est sûr que l'écoute de la parole de Dieu joue un rôle d'une très grande importance dans notre marche chrétienne. Tous les sermons que nous écoutons, que ce soit ceux que vous entendez le dimanche, que ce soit ceux que vous entendez le mercredi, si vous êtes présent le mercredi, que ce soit ceux que vous écoutez si vous allez écouter une conférence biblique, que ce soit ceux que vous écoutez sur Internet ou par quelque autre moyen que ce soit, c'est quand même l'écoute de la parole de Dieu. Alors, ça devrait toujours contribuer à notre sanctification. Alors, on devrait chercher à multiplier les occasions qu'on a d'écouter la parole de Dieu. Par exemple, dans cette église, on va, à partir de la semaine prochaine, avoir un deuxième culte dimanche, un culte un peu plus de bonheur dans lequel on va commencer à approfondir, on va étudier la parole de Dieu. J'ai appelé cette formation-là, formation biblique pour disciples. Alors, il va en avoir une un petit peu plus de bonheur. Alors, ça implique un effort de se lever un petit peu plus de bonheur, de changer des petites habitudes qu'on peut avoir. Cependant, je peux vous garantir que quelqu'un qui se donne la peine de vouloir honorer le Seigneur en apprenant des choses sur les Saintes Écritures pour transformer sa vie, en sera très richement récompensé. Ça, j'en suis pleinement convaincu. Alors, vous avez aussi l'occasion d'écouter la parole de Dieu le mercredi soir. Alors, si vous faites le total, dans une année, dans cette église, vous avez l'occasion d'écouter la parole de Dieu 52 semaines multipliées par 3. En mathématiques, ça fait 156. Alors, c'est sûr qu'on peut se donner toutes sortes de raisons pour pas venir le dimanche matin plus de bonheur. On peut se donner toutes sortes de raisons pour pas venir le mercredi soir, parce qu'on a d'autres activités, parce qu'on est fatigué, etc. Cependant, je pense qu'on manque le bateau. On dit, on croit que c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu veut nous parler, on n'est pas là. Ça nous passe-tu un petit message? Je pense que ça nous en passe un grand message. Alors, on se doit de multiplier les occasions d'écouter la parole de Dieu. Vous avez le mercredi soir, le dimanche matin, premier culte, le dimanche matin, deuxième culte. Et quand on dit multiplier, c'est qu'au lieu de perdre votre temps, des fois, écouter la télévision ou écouter de la musique qui est plus ou moins valable, pourquoi qu'une personne n'irait pas sur Internet downloader ou télécharger des bons sermons et les écouter sur votre ordinateur ou sur votre petit appareil de lecteur MP3? Quand on dit multiplier, c'est que on comprend qu'il y a de la valeur à écouter un sermon et on multiplie les occasions d'en écouter parce que cela va apporter quelque chose à la transformation de notre personne et à notre sanctification. Et si quelqu'un va sur Internet et qu'il download n'importe quoi, c'est sûr qu'il peut peut-être se faire diriger dans la fausseté. Mais si vous voulez avoir des bons endroits, si vous parlez l'anglais ou vous écoutez l'anglais, on peut vous conseiller où aller pour en écouter des bons. Et il y en a aussi des bons en français. On peut vous dire où aller de manière à ce que vous n'écoutiez pas n'importe quelle doctrine qui n'est pas nécessairement biblique. Alors, ceci étant dit, demander conseil est toujours sage. Alors, pour profiter pleinement de ces enseignements et de ces bénédictions, le chrétien doit écouter la parole de Dieu avec trois choses à l'esprit. La précaution, la préparation et la prédisposition. On va garder les trois points un arrière de l'autre. Voyons comment ces choses-là peuvent se répercuter dans notre vie quotidienne, lors de nos cultes personnels, lors de nos cultes en Église, lors de nos cultes familiaux et lors de tout autre culte dans lequel on écoute la parole de Dieu. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est quand on écoute la parole de Dieu, on se doit de l'écouter avec précaution. Si vous avez quelque chose de précieux, on va dire, on va le transmettre à l'autre, on va dire, fais attention, c'est précieux, tiens-les comme faux, là. T'sais. Alors, précaution, ça veut dire qu'on se doit d'avoir une attitude particulière lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Pourquoi qu'on se doit d'écouter avec précaution? Justement parce qu'elle est la parole de Dieu. On a ce mot-là à la bouche continuellement, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Cependant, est-ce que dans nos agissements quotidiens, on la considère véritablement comme si Dieu nous parle à travers un livre ou comme si Dieu nous parle à travers un serviteur? C'est exactement ce que le Seigneur fait ce matin. Voyez-vous, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, ça dit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » La parole donne d'elle-même ce témoignage qu'elle est véritablement la parole de Dieu. Alors ça devrait avoir des implications dans la manière dont on l'écoute. Lorsque nous écoutons un sermon, sommes-nous pleinement conscients que Dieu lui-même nous parle par l'intermédiaire d'un de ses serviteurs? Quand on dit conscient, on assiste à des... On va dans des églises locales, on s'assoit. Mais est-ce qu'on est pleinement conscient que Dieu nous parle à travers un serviteur? C'est pas Marcel que vous écoutez ce matin. Marcel, c'est l'instrument. C'est Dieu qui vous parle. Il y a un message à vous donner qui devrait avoir un impact sur la manière dont vous écoutez la parole de Dieu. C'est ça qui est le message ce matin. Alors, Dieu veut que nous mettions en pratique l'enseignement donné. La première raison, c'est parce qu'elle est véritablement la parole de Dieu. La deuxième raison, c'est parce que nous avons tendance, comme être humain, même régénéré, même sauvé, à nous séduire nous-mêmes. On lit dans Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-ci sera heureux dans son activité. Voyez-vous que ce que le Seigneur est en train de dire dans Jacques, ça pourrait que tu ailles à l'église 52 dimanches, puis ça pourrait que ce que tu as entendu, ça t'a passé par une oreille, ça t'a sorti par l'autre. Il est en train de dire ça. Alors, il dit, faites attention de ne pas l'écouter, juste pour l'écouter, puis que ça n'apporte pas un changement pratique dans votre vie de tous les jours. Si vous faites ça, il dit, vous vous séduisez vous-même. C'est grave, hein? Comme être humain, même régénéré, on est encore capable de se séduire nous-mêmes. Juste l'écouter, puis pas la mettre en pratique. Il dit, tu perds ton temps. Si tu fais ça, tu ne la mets pas en pratique, ça donne zéro, un gros zéro. Alors, il dit, fais attention de ne pas être un auditeur oublieux. Aussitôt que tu l'as entendu, tu l'as, ah, c'est bon. Puis bien souvent, tu arriveras le dimanche au soir, tu dirais, c'était quoi le sujet du sermon du dimanche matin? Hein? C'était quoi le matin, non, déjà? Hey, t'as même pas 3 heures, 4 heures, tu l'as entendu, tu l'as déjà oublié. Alors, c'est ça que le Seigneur veut dire. Alors, les saintes Écritures se doivent d'être mises en pratique. L'auditeur oublieux se séduit lui-même. Autre raison pour laquelle nous devons l'écouter avec précaution, c'est parce qu'elle peut sauver nos âmes. Dans Jacques 1, verset 21, ça dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La manière dont on écoute la parole de Dieu, notre destinée éternelle en dépend. Autre raison, la dernière, pour le premier point, c'est parce qu'elle nous sanctifie et que la sanctification dans la vie du chrétien n'est pas quelque chose à prendre ou à laisser. C'est essentiel, c'est nécessaire. Dans Jean, chapitre 17, verset 17, ça nous dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Alors, la Sainte Bible est l'outil divin pour nous sanctifier. Donc, pour nous séparer de tout ce qui est mal. Quand on va dans Hébreux 12, verset 14, je suis toujours émerveillé de voir le puritain Thomas Brooks qui a fait 58 sermons qui ne se ressemblent pas l'un et l'autre sur le thème de la sanctification en utilisant le texte de base Hébreux 12, verset 14. Je suis en train de travailler là-dessus. Et c'est fabuleux. Et le verset nous dit la chose suivante. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur ici utilise un langage fort. Il nous dit que s'il n'y a pas de sanctification dans nos vies, nous ne verrons pas le Seigneur. Ça pourrait arriver qu'on soit un chrétien professant, comme on l'appelle, qui professe croire, mais dont ses actions de tous les jours démontrent qu'il n'est pas véritablement un chrétien. C'est à prendre, c'est quelque chose de solennel que le Seigneur dit, c'est quelque chose des avertissements. Quand on dit qu'on doit faire attention comme écouter la parole, quand la parole nous dit une chose semblable, c'est le Seigneur qui parle. Il nous dit « Recherchez la paix avec tous » et la sanctification. Puis la sanctification, ça nous vient par... Le Seigneur nous dit, sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est la parole qui nous sanctifie. Donc, on ne devrait pas avoir de difficulté à faire le lien. Plus on va écouter la parole de Dieu avec précaution, en l'écoutant ce qu'elle a à nous dire, en nous laissant transformer par elle, en la recevant et en lui obéissant, en la mettant en pratique, on va avoir cette sanctification. Alors, Dieu a la grande part dans notre sanctification, mais il nous laisse quand même une part de responsabilité dans cette sanctification-là, et nous devons utiliser les moyens qu'il nous a laissés pour l'accomplir. Deuxième chose qu'on va regarder, donc l'écouter avec précaution, à cause des choses qu'on vient de dire. Deuxièmement, nous devons l'écouter avec préparation. Autrement dit, le Seigneur, quand il permet que des gens écoutent sa parole, il a lui-même fait un travail de préparation dans les cœurs des personnes qui écoutent. Alors, Dieu nous prépare, il peut agir dans notre esprit à différents niveaux, à différentes manières, à différents moments. On va regarder un exemple dans Esther 6, versets 1 à 6, où le Seigneur agit sur l'esprit d'un homme. Alors, je vais vous le lire. « Cette nuit-là, le roi ne put dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Teresh, les deux eunuques du roi garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? » « Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui le servaient le roi. » Alors le roi dit, « Qui est dans la cour? » Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? » Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? » On lit ça dans Esther 6, verset 1 à 6. L'idée, c'est que Dieu avait permis que le roi, une certaine nuit, ne puisse pas dormir. Donc, il avait agi sur son esprit, de manière à ce qu'il ait eu le goût de se lever et dire, « lisez-moi donc les annales de l'histoire de mon pays. » Puis là, il s'est rendu compte que quelqu'un, il a dit que Mardochée avait déjà déclaré au roi qu'il y avait deux eunuques qui avaient comploté pour lui enlever la vie. Et là, il se rend compte, il dit, « J'ai-tu honoré cet homme-là? J'ai-tu donné un cadeau pour ça? » Les autres, ils disent non. Et on sait très bien l'histoire, ceux qui ont lu Esther, on sait très bien que le Seigneur s'est servi de cet événement-là pour permettre que Mardochée, sa vie soit épargnée, et que le peuple d'Israël au complet, parce qu'il voulait avoir quelque chose pour faire exterminer le peuple des nations environnantes, puis on sait que c'était très puissant comme royaume à cette époque-là. Alors, ça, c'est une affaire. Alors, est-ce que si je vous lis ce matin le passage d'Esther, est-ce que ça vous sonne une cloche? Si ça ne vous sonne pas une cloche, ça veut probablement dire que vous ne l'avez jamais lu. Et si vous ne l'avez jamais lu, ça veut probablement indiquer que vous n'avez pas un bon rapport avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre pour être mis sur une tablette et qu'on la laisse là. C'est là pour être lu d'un couvert à l'autre, du premier verset de la Genèse au dernier de l'Apocalypse. Et ça nous apporte quelque chose. Le Seigneur nous dit dans le Nouveau Testament que toute chose qui est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça nous a été donné pour notre instruction et pour nous donner des exemples. Alors ici, le Seigneur nous donne l'exemple de quelqu'un qui, le Seigneur peut travailler sur notre esprit. Quand le Seigneur permet qu'on soit dans une assemblée quelque part, déjà, il peut avoir travaillé sur votre esprit de manière à ce que votre façon d'écouter soit différente. Donc, l'Éternel peut agir sur notre esprit pour nous préparer à recevoir sa parole. Le Seigneur peut nous préparer aussi en permettant qu'une parole soit dite, sa parole soit dite par une autre personne. Vous venez dans une assemblée et il se passe quelque chose, une autre personne vous dit quelque chose de la parole de Dieu. On prend l'exemple de 1 Samuel, chapitre 3, versets 4 à 9. Alors, on a l'exemple ici de Samuel qui était couché et que Dieu lui a parlé et... On va voir. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, alors aussi on voit Samuel qui croit que c'est Élie qui l'appelle alors que c'est Dieu qui lui parle. Il courut vers Élie et dit, « Voici, tu m'as appelé. » Il répondit, Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Alors, il peut arriver que la façon que l'Éternel a de nous préparer pour qu'on entende sa parole le dimanche ou le mercredi ou quelque autre occasion que ce soit, le Seigneur peut se servir d'une autre personne pour nous parler. Autre chose, le Seigneur peut nous avoir préparé à la réception de son message du dimanche, du mercredi ou quelque autre occasion que ce soit, par une bénédiction inhabituelle. Ça peut être dans notre foyer, ça peut être dans notre travail, ça peut être dans notre santé, ça peut être dans notre croissance, ça peut être dans nos finances, etc. On sait que les Écritures nous disent que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand vous êtes à l'église un dimanche matin particulier, Dieu a préparé par toutes sortes de circonstances votre esprit pour que vous soyez disposé à écouter ce qu'il y a à vous dire aujourd'hui. Alors, on peut aller voir le psaume 75, versets 5 à 7. « N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » Peu importe ce qui nous arrive dans nos vies, le Seigneur est au contrôle, c'est lui qui a permis et qui permet que ces choses-là arrivent. Il peut nous avoir préparé aussi par une prière inexaucée. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament l'histoire de David, on sait qu'il y avait eu de l'adultère avec Bathsheba. Il y avait eu un enfant qui avait résulté de cette union-là, qui était illicite et pécheresse. Et le Seigneur avait voulu que l'enfant meure. Et il était devenu malade d'abord et il est mort ensuite. Quand on lit l'histoire, on va voir comment une prière inexaucée, non, une prière non exaucée, peut nous amener à être plus attentifs et à vouloir être plus près de Dieu, à l'implorer, à l'écouter davantage. Alors, on va lire le passage 2 Samuel 12, versets 16 à 18. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Alors, quand il a vu qu'il était malade, il a prié Dieu pour que Dieu sauve la vie de l'enfant. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne le voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire « l'enfant est mort » Il s'affligera bien davantage. » David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges? » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Alors, voyez-vous, l'Éternel avait permis qu'à cause de son péché, l'enfant qui avait été le fruit de cette union-là devienne malade. Et lui, il a prié l'Éternel de lui sauver la vie, L'Éternel a dit non. Il a fait mourir l'enfant. Et qu'est-ce que ça lui a eu pour effet? David s'est rapproché de Dieu. Alors, des fois, ça peut arriver que nos prières sont inexaucées pour des raisons bien particulières. C'est que l'Éternel veut se servir de ces choses-là pour nous rapprocher de lui. Aussi, la déception. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le peuple d'Israël a voulu rentrer dans la terre promise, il avait envoyé des espions pour aller voir dans les terres qu'il y avait à conquérir, pour savoir qui était là, quelles étaient leurs forces, etc. Ils envoient 12 espions, ils reviennent, et là, quand ils sont venus, ils ont dit, on est allé dans ce pays-là et on a vu des géants. On ne sera jamais capable de battre ce monde-là, ils sont bien trop forts pour nous autres. Nommons-nous un chef, retournons en Égypte, on veut rien savoir, on se battra pas contre ce monde-là. Autrement dit, c'est à quoi le péché? Leur péché était qu'ils manquaient de confiance en l'Éternel. Que peu importe la grandeur, la force, la puissance de cette nation-là, l'Éternel aurait pu leur donner, avec même un petit nombre, se battre contre un grand nombre et avoir la victoire. Et ceux qui ont lu l'Ancien Testament au complet savent très bien la vérité de ce que je viens de vous dire là. Le Seigneur a déjà fait des victoires grandioses avec une petite poignée d'hommes. Quand on regarde l'histoire de Gédéon et bien d'autres. Alors, quand on regarde cette histoire-là, c'est que la majorité des espions, donc 10 sur 12, découragèrent le peuple d'entrer dans la terre promise parce qu'ils avaient vu les géants qu'ils devaient combattre. Ils manquèrent de foi à l'Éternel. Seule l'intercession de Moïse les sauva d'une destruction totale. Si Moïse n'avait pas été là, Dieu voulait les détruire. Manquer de confiance à Dieu, c'est pas un petit péché. Seul Moïse a intercédé auprès de Dieu et il a permis que le peuple d'Israël soit sauvé d'une destruction totale. Lisons le chapitre Nombre 14, versets 1 à 9. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux nous retourner en Égypte? » Ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Il y en a 2 sur 12 qui ont dit, « L'Éternel est capable de nous donner la victoire sur ce peuple-là. Faisons-lui confiance. » Regardez ce que le peuple dit. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Ça part. La déception. Parfois, l'Éternel peut permettre que des circonstances soient mises devant nous. Où on se dit, on est découragé, on pense qu'on ne sera jamais capable d'accomplir ce qu'il nous demande de faire. Nous, je ne suis pas capable de faire ça. Toi, tu n'es pas capable. Ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais Dieu est capable. Alors, toute la question n'est pas de savoir, c'est sûr que le peuple avait peur parce qu'il y avait des géants. Et se battre contre eux, ils étaient sûrs qu'ils étaient pour se faire massacrer. Parce qu'ils se fiaient sur leur propre force. À partir du moment où tu élèves les yeux, puis tu dis, si je regarde en arrière, qu'est-ce que le Seigneur avait déjà fait pour eux? Il avait fait l'ouverture de la mer Rouge. Il avait vu des choses que l'Éternel avait fait. Qui ont donc la mémoire courte? Que nous avons donc la mémoire courte? L'Éternel fait des choses prodigieuses. Et parfois, devant des difficultés, on se dit « je ne serai jamais capable ». Quand tu dis « je ne serai jamais capable », je dirais « tu as raison ». Mais tu peux être capable d'affronter quelque quelque difficulté que ce soit, en te fiant sur Dieu. Quand on regarde dans l'histoire de l'Église, les Moraves, par exemple, je pense, je me souviens pas si c'était au 15e ou 16e ou 17e siècle. De toute façon, c'est assez longtemps. C'était des chrétiens d'Europe. Et il y avait des pays qui avaient amené des esclaves dans des îles, puis ils avaient dit « Jamais les chrétiens n'atteigneront ce pays-là. » Et ils s'étaient donné comme ordre de ne jamais laisser rentrer un chrétien là. Mais les Moraves, ils aimaient tellement le Seigneur qu'il y en a qui se sont embarqués volontairement sur des galères d'esclaves pour aller comme esclaves dans les endroits où on avait dit « Jamais un chrétien mettra les pieds là. » Et ils se sont rendus là volontairement avec toutes les souffrances que ça pouvait représenter être un esclave sur un bateau d'esclaves à cette époque-là. Il faudrait voir les circonstances pour qu'on puisse apprécier à sa juste valeur les sacrifices que ces gens-là ont fait par amour du Seigneur Jésus-Christ. C'est inimaginable. Alors aussi, les circonstances ordinaires et extraordinaires de nos vies, nous savons dans Romains 8, 28 que le Seigneur nous dit, il nous prépare par ces choses-là. Il nous prépare aussi par les échecs. Quand le peuple d'Israël avait à conquérir la terre, vous vous souvenez que ça allait très bien au début, Josué, il attaquait les villes et les villes tombaient l'une après l'autre. Souvenez-vous qu'à un moment donné, il est allé à la petite ville qui s'appelait Haï, A-I, très bon. Et là, il a dit, le monde est revenu, ça sont un 3 000. Bon, on n'aura pas toute l'armée israélienne pour ça, allons-y. Ils n'ont pas consulté l'Éternel, et ils se sont fait battre par un petit village. Ils sont revenus la tête entre les deux pattes. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Faire des choses qui te semblent faciles, sans l'aide de l'Éternel, ça peut t'emmener des catastrophes aussi. Alors, on lit l'histoire dans Josué 7, versets 1 à 6. « Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Haven, à l'orient de Bethel. » Il leur dit « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes-là montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 000 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent dans la porte jusqu'à Shebarim. Ils les bâtirent à la descente, le peuple fut consterné et perdit courage. » Les échecs dans nos vies servent à nous enseigner des leçons spirituelles. Même dans les petites choses, nous avons besoin de l'Éternel. Les difficultés financières, on se souvient du livre des juges, où le peuple d'Israël avait été réduit à la servitude et à la famine, et l'Éternel s'est servi de ces choses-là pour rapprocher son peuple de lui. Alors, les difficultés financières peuvent aussi contribuer à nous rapprocher de Dieu. Aussi, la tragédie, la maladie ou les afflictions peuvent avoir contribué à nous préparer à écouter mieux la parole de Dieu. On se souvient d'Ézéchias dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 24. « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. » Nous lisons également dans Jérémie 29, versets 10 à 12. « Mais voici ce que dit l'Éternel. » Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. L'Éternel avait fait en sorte que l'idolâtrie du peuple d'Israël leur avait valu d'être envoyés 70 ans à Babylone, et il avait dit, ça c'est pour vous punir, pour vous châtier, mais au bout de 70 ans, je vais vous ramener. Alors parfois, c'était une expérience extrêmement difficile pour un peuple d'être emmené dans une autre nation comme esclave. L'Éternel, puis quand le peuple d'Israël est revenu de Babylone, ils n'ont plus jamais commis d'idolâtrie. Alors l'Éternel s'était servi d'une expérience difficile, d'une affliction, d'une épreuve pour les rapprocher de lui. Donc on a vu l'aspect de la préparation par Dieu lui-même pour améliorer notre manière de l'écouter. Maintenant, nous avons aussi notre responsabilité. Et ça, c'est important de réaliser ça. Nous devons d'être prêts physiquement. Autrement dit, l'état de notre corps, ça, c'est notre responsabilité pour lorsqu'on vient écouter la parole de Dieu. Si le samedi soir, vous vous couchez à 2h du matin, puis que faut vous vous levez à 6 heures le lendemain matin ou à 7 heures, vous allez trouver la vie du corps dur. Quand vous allez arriver à l'église, tout ce que vous allez avoir envie de faire, c'est que les deux yeux vont vous cogner. Tout. J'en ai vu dans les églises, je trouve ça pathétique. Pour vous dire l'état de mon âme, quand je vois quelqu'un dormir à l'église, ça me fait presque vomir. Un chrétien vient écouter son Dieu qui vient lui parler personnellement. Et tu lui dors en face. Je vais vous dire une chose. Si le premier ministre du Canada viendrait dans une salle de païens et qu'il y en a un dans l'Assemblée qui oserait lui dormir en face, il y a des gens qui se lèveraient et diraient, « T'as pas honte de dormir en face du premier ministre alors qu'il t'adresse la parole? » Et nous, Dieu lui-même qui n'a rien à voir de comparaison possible avec un premier ministre, c'est un minus, une poussière comparativement à l'infini du Seigneur, dans toute sa bonté. Et on ose lui dormir d'en face. On est des fois d'une inconscience. Puis pourtant, il y a certaines personnes là-dedans que j'ai vues qui ont dormi, je l'ai vu là. Et moi, ça me tue littéralement. C'est notre responsabilité de bien être prêt lorsqu'on vient écouter la parole de Dieu. Alors, c'est notre responsabilité de se coucher le samedi soir et de ne pas trop se charger de nourriture pour qu'on soit alerte mentalement. Alors, c'est notre responsabilité. Nous sommes responsables de notre réceptivité au message en étant bien reposés, en nous accordant les heures de sommeil nécessaires et en permettant que notre corps soit bien détendu. Ça, c'est notre responsabilité. Si on dort, c'est pas à cause que Dieu avait rien à dire, c'est parce que tu n'avais pas les oreilles assez grandes pour l'écouter, tu t'étais pas préparé, et ça, c'est un péché. Si c'est une offense pour les hommes de dormir devant un premier ministre, dormir devant Dieu, alors qu'il t'adresse la parole, on n'a pas aucune idée jusqu'à quel point c'est un péché grave. Autre chose, nous devons de nous préparer également psychologiquement. On doit essayer le dimanche de garder nos soucis de la semaine. On en a tous des soucis. Mais le dimanche matin, on devrait essayer de dégager ces choses-là de notre esprit. On vient adorer le Seigneur. On vient entendre sa parole. On se devrait d'être dans un état psychologique adéquat. Dernière chose, on se devrait d'être préparé spirituellement. On l'a déjà dit, prenons conscience que Dieu veut nous parler par un de ses serviteurs. Préparons notre cœur en priant, et là, voyez bien ce que je veux vous dire, là. Malheureusement, je ne le fais pas moi-même tout le temps, là. Mais ça ne fait rien, ce n'est pas à cause que je dis quelque chose que ce n'est pas vrai, même si je ne le fais pas nécessairement tout le temps. Préparons notre cœur en priant tous les jours pour que le Saint-Esprit éclaire et gouverne le prédicateur. Et pour que tous les auditeurs soient réceptifs et obéissants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a prié pour le prédicateur toute la semaine, tous les jours? Et est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette assemblée qui a prié pour que les auditeurs soient à la fois réceptifs et obéissants? Si vous l'avez fait, j'apprécierais beaucoup que vous me le disiez, parce que je dirais, vous êtes vraiment spirituel. Le faire à tous les jours, ça devrait être quelque chose, ça fait partie de notre préparation. Si je prie pour le prédicateur à tous les jours, pensez-vous que l'Éternel ne répondra pas à la prière? Il va répondre à la prière. Et si je prie pour que les esprits soient réceptifs à recevoir la parole et aussi à la mettre en pratique, pensez-vous que le Seigneur ne va rien faire avec ça aussi? Si tout le monde de l'Assemblée ferait ces choses quotidiennement, régulièrement, la qualité des enseignements qu'on recevrait serait grandement haussée. Vous souvenez-vous, sûrement vous avez entendu parler du grand prédicateur anglais Spurgeon. Avant que le culte commence, eux, il y avait un soubassement. Et la grosse majorité d'églises allait au soubassement. Et ils priaient pour le sermon du dimanche et ils priaient pour les auditeurs. Spurgeon appelait ça sa fournaise. S'il y a de la chaleur en haut, c'est parce qu'il y a du bois en bas, dans la fournaise. Il y a du monde qui met du bois dans la fournaise. C'est exactement l'image, mais si on ferait ça, malheureusement, on est manquant, on est tous manquants sur cet aspect-là. Et on devrait chercher à changer ces choses-là. Si je vous disais ce matin, seriez-vous prêt à me promettre solennellement qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez prier pour le prédicateur à tous les jours jusqu'à temps que vous mouriez? Est-ce que vous auriez assez de guts pour dire « je m'avance et je vais le faire » Oui? Bravo. Un oui. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire intérieurement, c'est pas grave. Mais c'est important, on dit ça de même, là, mais c'est très important que nous prions pour le prédicateur à tous les dimanches. On le fait le mercredi, mais on devrait le faire à tous les jours. Ça fait une différence, prier une fois ou prier six fois. Autre dernier point, la prédisposition. Alors, on l'a déjà mentionné, soyons assurés que Dieu lui-même promet de nous parler par les sermons. Dans Jérémie 33, verset 3, le Seigneur nous dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Soyons aussi conscients des prérequis d'une écoute profitable. Une écoute profitable implique un effort soutenu. Elle nécessite deux choses, la bonne attitude et l'obéissance. La bonne attitude, un véritable croyant s'attend à ce que Dieu communique avec lui au moyen d'un sermon entendu. La foi croit aux promesses de Dieu. Donc, la bonne attitude, c'est comme on lit dans le psaume 46, 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Donc, à quelque part, quand on écoute la parole de Dieu, c'est s'arrêter. Hein? Quelque chose à me dire ici, il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à changer par l'intermédiaire du sermon que le Seigneur permet que j'entende. Autre chose, la patience. On se doit des fois des choses qu'on n'a pas installées dans nos vies, mais qu'on voudrait se rendre vers là, il faut demander au Seigneur de nous accorder la grâce de l'impliquer dans nos vies et d'attendre qu'il nous l'accorde. Quand on demande des choses bonnes, l'Éternel nous dit qu'il nous les accorde. Et la dernière chose, l'humilité et la soumission. Quand on reçoit la parole de Dieu, que le Seigneur nous fait, je sais pas, des réprimandes, des reproches, il nous fait voir des aspects de nos vies qui ne fonctionnent pas. Faut pas dire, ben là, ça c'est pour moi. Faut d'abord reconnaître qu'on a des manquements. Faut d'abord reconnaître notre faiblesse. Faut d'abord reconnaître notre misère et demander à Dieu de changer cet aspect-là qu'il est en train de vouloir nous demander de changer. Un des chapitres qui m'a le plus marqué dans toute la Bible, c'est Matthieu 7. Matthieu 7 nous raconte qu'il y a des personnes qui vont se présenter devant le Seigneur et que le Seigneur va leur dire éventuellement « Je ne vous connais point. » Mais c'est intéressant de savoir pourquoi il leur dit « Je ne vous connais pas. » Moi, ce chapitre-là, il m'a tellement frappé quand je l'ai lu, ça c'est venu me chercher dans le fond du cœur. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le Seigneur est en train de nous dire, fais attention de la manière que tu écoutes. Parce que si tu ne mets pas ce que tu écoutes en pratique, ça ne donne rien. Moi, quand je lis des chapitres comme ça, je me questionne. Et il faut se questionner aussi. Est-ce que je suis un auditeur oublieux? Est-ce que quand j'écoute des sermons, c'est juste pour « Ah, je suis allé à mon église le matin. » Est-ce que vous considérez véritablement que Dieu est en train de vous parler, que Dieu est en train de vous demander de changer des choses précises dans vos vies? Il dit, celui qui entend ces paroles, on les entend-tu? On les entend avec nos oreilles physiques. Il faut les entendre avec nos oreilles spirituelles aussi, et qu'il les met en pratique. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Plusieurs applications pratiques qu'on peut faire du sermon de ce matin. La première chose, écoutons avec précaution, en étant conscient que Dieu se sert d'un serviteur pour vous parler à vous, collectivement, et à vous, individuellement. Il me parle à moi, puis il vous parle à vous. Alors, sachons, écoutez en étant conscient de où le message vient. Deuxième chose, écoutons avec préparation. Dieu nous prépare de toutes sortes de manières qu'on a vues tantôt par sa providence. Notre responsabilité, c'est d'être prêt physiquement, être prêt psychologiquement et être prêt spirituellement. Nous devons de prier régulièrement et quotidiennement pour le prédicateur et pour les auditeurs. Et si, à partir d'aujourd'hui, tout le monde qui est dans cette assemblée prierait pour le prédicateur et tout le monde prierait pour les auditeurs, je peux vous garantir qu'il va y avoir des choses qui vont changer dans comment la parole de Dieu est écoutée et comment la parole de Dieu est obéie, parce qu'il va y avoir des gens qui vont avoir demandé à Dieu que la parole soit bien entendue et que la parole soit mise en pratique. Et dernière chose, écoutons avec prédisposition. Dieu a toujours à nous dire et à changer des choses en nous. La bonne attitude et l'obéissance sont absolument essentielles. Supplions l'Éternel de nous accorder la grâce d'une écoute attentive et profitable pour sa gloire. Amen. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons à ta sainte présence encore une fois, Seigneur, pour implorer ton pardon, pour les fois dont nous avons écouté ta parole distraitement, sans prendre conscience que cela venait de toi, que tu avais des choses à nous dire personnellement, à changer des choses en nous individuellement. Nous te prions, Seigneur, de permettre que, dorénavant, nous ayons à cœur de nous préparer lorsque nous entendrons la parole de Dieu, physiquement, psychologiquement, spirituellement, et que nous ayons à cœur également de prier quotidiennement, à la fois pour l'onction du Saint-Esprit sur le prédicateur et à la fois pour l'onction sur les esprits des auditeurs, que ce soit des auditeurs directs ou ceux qui entendront plus tard les sermons sur Internet ou une autre façon. Seigneur, permets qu'on soit conscient que chaque fois qu'il y a un sermon qui est prêché, c'est toi personnellement qui as des choses à nous dire et qui veut changer des choses dans nos vies. Et nous savons, Seigneur, que si nous ne mettons pas en pratique, ce que tu nous enseignes, tu nous le dis toi-même, cela est sans valeur. Nous te demandons ces choses par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.